Bonjour à toutes et à tous, il est pratiquement 17h, nous sommes le mercredi 9 juillet 2025 et ce mois de juin s'en est allé avec son lot de chaleur et d'incidents techniques sur cette radio, incidents totalement indépendants de notre volonté. Aussi, nous diffuserons l'émission prévue le 25 juin, et bien nous la diffuserons le mercredi 23 juillet. Vous avez reconnu notre générique, la suite en sol de Jean-Philippe Rameau, interprété par Alexandre Tarot. On va parler de livres pendant une heure et demie dans Au fil des pages sur Radio Libertaire. Frédéric, Agnès, Marie, Francis et aujourd'hui notre invité Anka Visdei pour son livre « Sioran ou le gai désespoir » publié aux éditions Archipel. C'est un très grand plaisir pour moi d'accueillir Anka. Frédéric m'a signalé qu'il n'avait pas d'annonce, donc en plus de nous écouter, vous pouvez nous écrire, librairie Publico, Paris 11e, 145 rue Amelot. Aussi, sur le blog du groupe Commune de Paris, vous pouvez laisser un petit message en cliquant sur « Contact ». Aujourd'hui, une relative diversité de thèmes, de livres, et puis une légère dominante, vous savez que nous y songeons tous les ans, à l'approche du 16 juillet. 16 juillet, hélas, le début de la rafle du Veldiv, organisée par la police française. On commence la première demi-heure avec un livre pour alimenter le débat, et je vous propose un livre consacré aux langues régionales. Nous vivons en France le caractère unitaire de son régime politique, sa construction de l'idée nation, conduisent à considérer une langue, le français, comme étant celle de la République, pour reprendre l'article 2 de la Constitution de 1958. Pourtant, cette langue n'est pas apparue à un beau jour d'été, 14 juillet ou 15 juillet au matin, figé pour l'éternité. Et dans notre émission, au fil des pages, nous avions présenté le livre de Gilles Sioufi, Paris-Babel, histoire linguistique d'une ville-monde, aux éditions Actes Sud, en 2024. Et il y démontre l'évolution de cette langue au fil des siècles et comment d'autres idiomes l'ont enrichi et aurait pu la supplanter. Je vous renvoie vraiment à ce livre passionnant. L'Académie française, émanation de l'Ancien Régime, était chargée par Richelieu d'assurer une homogénéité géographique et grammaticale. La Révolution française, par la voix de l'abbé Grégoire, entend annihiler les patois et autres dialectes utilisés sur le territoire national. Vous considérez bien que le patois, il y a un certain mépris en utilisant ce terme. Et Mirabeau considérait que la France était une mosaïque de peuples. Bref, des années de combats, d'oppression menées par la République, et particulièrement son outil, l'école, s'acharne sur ces langues du peuple, alliant mépris, moquerie, répression. Tous les enfants en langue de langue bretonne, corse ou autre, ont connu le signal, c'est-à-dire la pratique de la dénonciation et de la punition pour ceux qui parlaient leur langue maternelle, celle dans laquelle l'individu, comme je le dis souvent, prononce ses premiers mots et les derniers, c'est celle qui sort du cœur. L'unité officielle de la France réalisée, nous ne pouvons qu'être surpris par la virulence des débats, encore aujourd'hui, quant à la pratique des langues régionales. Et les tenants d'une seule langue confondent langue commune et langue unique. Chacun peut constater que ces langues régionales perdurent et ne sont pas l'apanage de quelques vieillards réactionnaires bredouillants. Et déjà, Mona Ouzouf, dans son livre, que je conseille aussi, « Composition française », publié chez Gallimard en 2008, réédité en poche, a analysé la rencontre entre la culture française et la culture bretonne. Et là, venons-en au livre que je voudrais évoquer avec vous, Rosaine Milin, historienne, pratiquant le breton, et Philippe Blanchet, Lunati, universitaire, attaché au Provençal, publié aux éditions Héliopole, Langue régionale, idées fausses et vraies questions. Dans un style accessible avec humour, agrémenté des dessins de Joël Auvin, dit Nono, il corrige les fausses informations et éclaire le débat de façon sérieuse et constructive à partir de connaissances scientifiques sur les langues, ne se limitant pas à celle de l'Hexagone. Ils s'intéressent à leurs pratiques, leur histoire, leur fonctionnement, leur place. Et partant des affirmations énoncées par des personnes qui n'ont aucune pratique de ces langues, ils démontrent le processus d'ostracisation de ces parlers. Évidemment, nous avons droit à l'inénarrable président de la République actuelle, affirmant péremptoirement que ces langues étaient un instrument, au fond, de la division de la nation. Ce que lui, évidemment, n'est pas, hein, comme chacun peut le constater. Nous connaissons le mépris des langues à l'égard, pardon, de ces langues qualifiées de patois. Pourtant, elles traduisent une part de l'identité des locuteurs, l'appréhension de leur environnement. Je cite « Rien ne permet d'établir objectivement une hiérarchie entre les langues ». Oui, je suis d'accord. « Il n'existe pas d'échelle dont le sommet serait occupé par des langues nobles, comme le français, surplombant les dialectes, sorte de sous-langue locale déclinée en patois par des classes populaires peu éduquées. » Fin de citation. Les poncifs sont dénoncés au fil des pages. Ces langues n'auraient pas de grammaire. Faux. Ainsi, le kanak, le breton, le béarnais disposent de règles grammaticales très élaborées. Voyez, ils ne se limitent pas aux langues de l'Hexagone, le kanak. Elle ne s'écrirait pas inexact. Le premier texte date de 880 et n'est pas en langue française. Ces langues seraient-elles figées dans le temps, un temps agro-pastoral ? Faux. Des chercheurs travaillent sur leur enrichissement, tout comme le français évolue. L'absence de littérature dans ces langues est aussi dénoncée. Or, les auteurs mettent en valeur quantité de romanciers, de poètes, d'essayistes actuels. Malheureusement, ces textes ne sont pas inscrits dans les programmes scolaires. Et pour mieux démonter l'intérêt de ces langues, leurs critiques considèrent qu'elles ne sont plus parlées ou si peu. Là aussi, c'est faux. Et inscrire des cours dans le parcours scolaire contribue à leur diffusion. Et Rosen Milin et Philippe Blanchet-Lunati nous livre des statistiques très précises et encourageantes quant à la pratique de ces langues par les jeunes générations. Certains termes sont même utilisés dans la publicité, le commerce. Alors pour une langue du passé, ben, on peut repasser. En pratique, une langue s'inscrit dans le patrimoine de ses locuteurs. Et c'est un drame pour la culture humaine lorsqu'une langue disparaît. Où que ce soit dans le monde, une réalité dénoncée malheureusement par les linguistes. Chacun a droit à sa ou ses langues. Chacune d'entre elles, avec ses spécificités, apporte sa pierre à la façon de comprendre et d'aborder le monde. Je trouve que c'est une très belle phrase des deux auteurs. Alors je vous rappelle, Rosen Milin, Philippe Blanchet-Lunati, Langue régionale, idées fausses et vraies questions, aux éditions Héliopole en 2025, et je vous propose, pour montrer la modernité d'une langue, d'écouter une chanson en langue corse, interprétée par Petu Guelfuch, Canta Incumé. Ma mère l'aimait beaucoup. Est-ce que tu peux l'envoyer ?
Canta, 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 gumé, canta, 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 gumé. Sera la marezza ben felice d'oïda, canta gue, o sciacca maneggia, guarda.
l'allegra di una stomba e ripredendo. Canta, canta, canta con me, canta, canta, canta con me. I pensieri smariscano una volta, canta me, oh sciacca maneggia, guardando da te chi mu di piedia. Canta, canta, canta con me, canta, canta, canta con me, canta, canta, canta con me.
Alors Agnès, les bandes dessinées, les romans graphiques permettent eux aussi d'engager des débats. Et là, tu vas nous présenter un livre qui s'intitule « Deux filles nues ». Alors dis-nous ça.
Oui, « Deux filles nues » est une bande dessinée créée par Luz et parue aux éditions Albin Michel. Ronald Luziel est un auteur de bande dessinée, né en 1972, en particulier dessinateur de presse. Il collabore avec plusieurs journaux, dont Charlie Hebdo, qui quitte en septembre 2015, après avoir échappé de peu à la tuerie de ce journal. Il raconte le voyage d'un tableau depuis sa création, « Deux filles nues », un tableau réalisé par un expressionniste allemand, d'origine cigane, Otto Müller. Dans ce roman graphique de femmes nues, Luz livre une œuvre singulière où l'image joue un rôle central, jouant sur une fragmentation du regard dès les premières pages, comme des pièces de puzzle à rassembler au bout, avant d'engager l'histoire de ce tableau. En effet, Otto Müller, le peintre, quittera tout pour se rapprocher de la région où il y a le plus de chances de vendre son œuvre, en Silésie, à Breslau. Deux femmes nues est achetée par un collectionneur d'art juif, avocat de son métier, peu de temps avant le décès de l'artiste d'une pneumonie. Et puis le tableau suit la tragédie de ce temps obscurci par les événements de la montée du nazisme, qu'on devine dans des défilés sombres vus par la fenêtre, des illustrations dans la nuit des villes, jusqu'à l'élection d'Hitler, les lois implacables envers les juifs, le suicide du collectionneur, après l'interdiction d'exercer, l'espoliation, dont ce tableau en particulier, et son rejet par le Troisième Reich de ses œuvres de cette époque, Hitler qualifié d'art dégénéré. À travers le destin de ce tableau, Luz illustre le voyage de biens d'œuvres dérobées, déplacées, cachées, parfois détruites, parfois sauvées. Des œuvres pas seulement écartées pour leur caractère pictural qui déplaisait au Führer, mais pour certaines parce qu'elles étaient rapportées par des communistes, des tziganes et des homosexuels. Il faut bien le rappeler. Picasso faisait aussi partie de ces peintres. Mais ici, dans ce récit, l'histoire prend une autre tournure, celle du retour, de la renaissance, de la reconnaissance, pardon, de la restitution, de la survivance. Ce tableau aimé, contemplé, choisi avec émotion par ce collectionneur passionné un temps, devient incompris, interdit, mis au placard, dans le sens propre du terme, couvert de toiles d'araignée, comme l'illustre Luz, enfin finit par être à nouveau exposé, réhabilité, réinséré dans la mémoire. Une revanche sur l'oubli, une manière de redonner une voix à ceux qui ont été réduits au silence. Deux femmes nues n'est pas qu'un récit historique, c'est aussi une œuvre traversée par l'intime. Luz y injecte une part de sa propre mémoire, notamment celle liée à l'attentat de Charlie Hebdo, auquel il a échappé. Cette survie, cette survivance est là comme un message. En somme, Luz signe une œuvre à la croisée de la mémoire historique et de la mémoire personnelle, une méditation sur ce qui survit malgré la violence, malgré l'effacement. Reynald Luziel a reçu le prix Fauve d'Or en 2025, élu meilleur album de l'année pour la parution de cette bande dessinée que je vous invite à découvrir. Je vous rappelle le titre, Deux filles nues, bande dessinée de Luz aux éditions Albin Michel, paru en 2024.
Merci Agnès, ça fait partie de ces livres que nous présentons à l'occasion de l'horreur du 16 juillet d'il y a quelques années. Autre voix dans notre émission, Marie. Marie va nous parler d'un petit livre écrit par un grand historien, elle lui aussi résistant, torturé, assassiné par les nazis, Marc Bloch. Écoutons-la, Frédéric.
Donc je vous présente aujourd'hui un petit ouvrage de référence très intéressant sur le plan historiographique, « Réflexion d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre » par Marc Bloch, paru en mars 2025. Il s'agit en vérité de la cinquième édition et donc c'est paru aux éditions Alia. Ce petit ouvrage donc met en perspective une analyse des fausses nouvelles colportées pendant la Première Guerre mondiale par l'historien des annales Marc Bloch. Au début de l'ouvrage, il donne une réflexion sur le lien entre le témoignage, la psychologie sociale, l'histoire et l'imaginaire collectif populaire. De nombreuses fausses nouvelles, communément appelées rumeurs, apparaissent et se dispersent de façon totalement incontrôlée, contribuant ainsi à biaiser la perception de la réalité et de la vérité. Marc Bloch se focalise sur des exemples précis, le premier étant la fausse nouvelle de l'arrivée de renforts russes, peut-être à Marseille ou en Écosse pendant la Première Guerre mondiale. En vérité, cela n'a jamais été démontré. Mais il fallait montrer, il y avait bien évidemment ce désir de montrer que les Russes étaient guerriers, puissants. Les Russes seraient venus secourir les alliés occidentaux. Les fausses nouvelles sont bien souvent amplifiées, accentuées par des a priori et des préjugés qui alimentent justement les légendes et récits régionaux et nationaux. Marc Bloch émet ce constat toujours d'actualité, un siècle après la Grande Guerre, que les moins instruits sont les plus crédules, car ils s'en tiennent souvent à ce qui leur est rapporté, sans jamais en vérifier les sources. Il y avait aussi cet exemple des francs-tireurs du massacre des prétendus francs-tireurs belges par les Allemands en août 1914. Ils étaient accusés d'avoir été francs-tireurs, bien souvent à tort, et sous le simple prétexte que dans certaines maisons, ils auraient bâti des meurtrières. Donc ça, c'était bien évidemment un préjugé plutôt infondé, et ça a mené à un massacre de milliers de Belges, parce qu'il fallait vraiment...
Par les troupes allemandes.
Tout à fait, par les troupes allemandes, bien sûr. Ça brisait complètement la convention de La Haye, ça a quand même remis en cause beaucoup de choses pendant la Première Guerre mondiale, cette histoire, mais à l'arrivée, c'est les Allemands du coup qui ont quand même ils s'en sont pas sortis gagnants ils ont bien évidemment été perçus comme des massacreurs de Belges, voilà. Donc Marc Bloch insiste sur la dimension psychologique, lui qui a été envoyé sur le front, il a vraiment vécu la Grande Guerre. Et il nous dit d'ailleurs que lorsque l'émotion se mêle au témoignage, la vérité peut en être altérée. Et puis certaines rumeurs sont, enfin certaines nouvelles en fait sont tellement rassurantes et réconfortantes que l'on préfère y croire d'emblée cette vérité qui arrange, même si elle est fausse. Voilà, celle des renforts russes, bah on préfère y croire parce que bah les soldats qui étaient sur le front complètement fatigués tant sur le plan physique que mental voulaient se raccrocher à un espoir aussi par moment. Donc c'était aussi c'est tout ce mécanisme en fait de psychologie sociale que Marc Bloch a mis en avant à travers ce livre bien sûr. Et puis ces rumeurs justement qui étaient colportées pendant la guerre beaucoup donc sur le front donc par les soldats, par les infirmières, donc il y avait tout un mécanisme voilà, de colportation, des rumeurs, des fausses nouvelles. Bon, et puis, bah oui, un siècle après, on se rend compte que les fausses nouvelles sont toujours bien d'actualité dans un autre contexte, mais on retrouve toujours des rumeurs qui sont colportées cette fois-ci par les médias, et on peut y croire pendant des mois, et puis se rendre compte après que finalement, bah, c'est pas vraiment ce qu'on croyait.
Oui, on a eu l'occasion avec notre ami Dominique, qui n'est pas intervenu depuis un bon moment dans notre émission Au fil des pages, d'avoir la rumeur des au moment de la libération entre guillemets de la Roumanie, où les Roumains ont sorti des corps soi-disant torturés et après à Sibiu, et en fait on s'est aperçu après que ce n'était pas du tout des corps de torturés, mais c'était tout simplement des corps qui étaient restés à la morgue, oui, et qu'ils avaient sorti pour nous faire croire qu'ils avaient été victimes de tortures, etc., etc. Alors, le régime de Ceausescu était absolument odieux, ça, on va certainement pas le nier, loin de là, mais la manière dont on arrange les choses, c'est assez étonnant, et la crédulité des gens, oui, les gens y croient. Quand bien même, plus c'est gros et mieux ça marche, comme disait cette espèce d'ordure de Goebbels. Oui. Et plus dans la société est désespérée, plus elle a besoin de croire, oui, dans des décisions, des affirmations qui n'ont pas lieu d'être. Le petit bouquin est sorti chez qui déjà?
Alors donc c'est les éditions Alia, donc qui en ont fait la cinquième édition, parce que la première date.
En fait, c'est un article.
Oui, tout à fait. C'est un article. Et oui, donc la première édition date d'octobre 99. Voilà. Donc ils ont un petit peu remis au goût du jour, et puis sur le plan de l'édition bien sûr, sans toucher au texte, le texte est vraiment bien de Marc Bloch, on reconnaît le style de Marc Bloch. Donc c'est paru voilà en mars 2025, et donc je rappelle le titre, Réflexion d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre, de la Grande Guerre. Voilà.
Nous arrivons au deuxième temps de notre émission. C'est un très grand plaisir d'accueillir Anka Vizdei, metteuse en scène, écrivaine, dramaturge d'expression française, et nous allons évoquer un personnage complexe, Cioran. Lorsque je lui ai demandé quelle musique elle aimerait écouter en préalable de cet entretien, elle m'a tout de suite proposé Les créatures de Prométhée de Beethoven. Nous avons sélectionné l'ouverture interprétée par l'Académie Saint Martin in the Fields sous la direction de Tomo Keller. Frédéric.
Thank you.
Comme promis, voici notre entretien. Il est enregistré, c'était plus pratique pour Anka. Et elle me signalait que Cioran adorait Jean-Sébastien Bach. Alors nous conclurons cet entretien, donc je ne reprendrai pas la parole, nous conclurons cet entretien par une Sicilienne en sol mineur, BWV 1031, de Jean-Sébastien Bach. Et pour ceux qui aiment Bach, nous avons passé hier dans l'émission Un classique s'il vous plaît, le Magnificat, ainsi qu'un certain nombre d'autres pièces de Jean-Sébastien Bach. Allez, entrons dans l'entretien avec Anka. Anka Visdei, nous avons eu déjà l'occasion d'échanger sur ton livre Alberto Giacometti, Assaise et Passion, publié en 2019, je crois.
Oui.
Hein, c'est ça. Ah. On s'était rencontrés à la librairie Publico. Aujourd'hui,
j'en garde un très beau souvenir.
Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle biographie publiée aux éditions L'Archipel, Cioran ou Le Guet des Espoirs. Et ce livre vient de recevoir le prix Goncourt de la biographie, c'est bien ça?
Oui, bon. Au mois de mai.
Alors, pourquoi des titres avec des termes en opposition apparente, comme ça, assaise et passion, guet et désespoir, une volonté de tes titres?
Je peux rajouter le titre de ma biographie sur Jean Anouilh, un auteur inconsolable et
gay. D'accord, voilà. Alors, pourquoi ce choix?
Je trouve que lorsqu'on fait une biographie, on vit, et c'est un des plaisirs de ce travail, on vit pendant un an ou deux, ou peut-être plus, avec un personnage, avec quelqu'un qui a disparu et on essaye de mettre ses pas dans ses traces et pratiquement de revivre sa vie, ce qui est très ravigorant et très intéressant. Donc, je choisis toujours, j'ai eu la chance de choisir les personnages sur lesquels j'écris, et je choisis toujours des personnages qui me passionnent moi. Et je pense qu'à chaque fois, j'ai eu la chance de traiter d'hommes, de créateurs qui étaient des univers à eux seuls. Donc quand on est un univers, ça rejoint le soleil et la lune, le jour et la nuit, et il y a toujours des degrés très importants qui vont du plus concret au plus général, plus métaphysique, et du coup on peut traiter tout ce qui est entre les deux. Je pense aussi que le monde est en forme de paradoxe. Nous savons très bien que le même être, on peut passer par des instants de paradis et des instants où on a l'impression qu'on vit en enfer. Donc je trouve passionnant de traiter vraiment toutes les limites de notre existence et de notre création.
Qu'est-ce qui t'a conduit vers ce personnage étonnant, Kessieron?
Je pense qu'il était comme beaucoup de gens dont j'ai écrit et arpenté la carrière, c'était au fond un illustre inconnu. J'entendais plein de gens qui pensaient le connaître, qui pensaient connaître sa vie, qui racontaient aux autres comment il vivait, comment il était, alors que c'est quelqu'un qui recevait très très peu. Je crois que j'ai fait une des rarissimes, peut-être, des une ou deux interviews qui ont été faites de lui. Donc c'était quelqu'un qui se cachait par pudeur.
Dans quelle revue?
C'était dans les Nouvelles littéraires. Excellente revue, disparue hélas.
Oui.
Effectivement, le titre très bon donné par la rédaction, j'ai aucun mérite, c'était « Sioran parle ». Parce que c'était rarissime qu'il parle. Il écrivait, mais il refusait toute interview. La preuve, c'est qu'il avait refusé apostrophe. Il avait envoyé quelqu'un à sa place. Mais il refusait absolument de parler aux médias, aux gens. En revanche, il était tout à fait accessible pour les gens dans la rue.
Oui, c'est ce que tu écris dans le livre. Alors, il me semble que c'est la première biographie en langue française sur ce personnage. Comment as-tu travaillé à te lire ton texte fourmille de références, de lettres, de livres, d'articles. Tu as dû mettre un temps fou pour faire tout ce travail.
Ça a été, je me suis pas rendu compte parce que c'était stimulant et que ça m'a passionné. Je pense que l'essentiel était le fait de l'avoir connu. Parce qu'en l'ayant connu lors de cette interview, j'ai eu le son de sa voix, le style de son tempérament. C'était un homme très ouvert, qui se donnait tout de suite, c'était un passionné. Il pouvait être taiseux, il pouvait être très inspiré, très en colère. Et au fond, il avait beaucoup, beaucoup de côtés d'un tempérament ardent. Et une fois que vous connaissez ça, plus personne ne peut vous emberlificoter avec l'image de grand pessimiste, de l'ermite dans sa mansarde. Bien sûr que parfois il y a de ça. Il y a de ça dans chaque écrivain. Mais quand vous connaissez un homme, avec le son de sa voix, avec son visage, ses mains qui vous tendent un verre en vous servant du vin de bienvenue, je pense que vous avez une connaissance tellement directe au personnage. Il y a eu 30 ans entre le moment où on s'est rencontrés et son décès. Donc ça veut dire aussi que tous ses souvenirs se sont posés. Il est resté l'essentiel. Et le moment où vous abordez la partie un peu académique, un peu reportage, recherche secret d'archives, au fond, vous avez quelque part, comme un sorcier qui a toujours une petite chouette sur son épaule, sur votre épaule, il y a le regard de Sioran, un homme que vous avez connu, qui a été chaleureux avec vous, qui vous a offert une interview et qui, quelque part, bien sûr, il ne peut pas vous interdire de faire une biographie, mais quelque part vous soutient de par le fait que vous l'avez rencontré et vous sentez un peu habilité à en parler et vous devenez, et ça m'est arrivé dans des moments où j'étais en total désaccord avec des choses qu'il écrivait, ça m'est arrivé de penser, je dois être son avocat parce que je l'ai connu. Il m'a donné son amitié, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a écrit. Quand je le présente à mes lecteurs, je dois être son avocat, un biographe, un chercheur, un juge d'instruction, sans pitié. Mais il est aussi le meilleur des avocats, parce qu'il ne passerait pas deux années de sa vie avec un salaud.
Alors, il est né près de Sibiu, en Transylvanie, Roumanie. Cette période, cette enfance a beaucoup compté pour lui et je crois que tu dis qu'elle lui parut heureuse, un adjectif rare chez Sioran.
Rarissime. Rarissime, je crois que c'est l'unique fois où il dit le mot heureux quand il parle de son enfance. Oui. Maintenant, je pense aussi qu'il y a une récréation de l'enfance, a posteriori. Autant les pauvres enfants battus, quand on leur donne de temps en temps voix au chapitre, ceux qui par pudeur ne disent rien, ils se demandent comment ils ont survécu, autant ceux qui ont eu une enfance heureuse, j'ai l'impression qu'ils l'adorent un tout petit peu plus. Dans le sens de dorure, ils l'adorent aussi de sentiment, mais je pense qu'il l'embellit beaucoup parce que il a toujours refusé de revenir sur les lieux. Il est parti en 1941 des Roumanies, il n'est jamais revenu.
Oui, il n'est jamais revenu.
Il n'est jamais revenu. Il y avait une raison politique aussi, parce qu'il avait été un peu fascisant, il avait été partenaire de Zélia Codreanu, donc il ne pouvait pas revenir après la guerre, parce que les communistes l'auraient sûrement mis en prison aussitôt pour ses fréquentations fascistes, qui étaient assez lamentables, il faut bien le dire. Mais enfin, c'est des fréquentations de très grande jeunesse. Et il n'est jamais revenu. Donc, je pense aussi que le fait, ça m'est arrivé aussi à une époque. Donc, je suis partie avec mon père de Roumanie, réfugié politique en Suisse. Et il faut comprendre un exil où vous n'avez pas le droit de revenir au pays. Il y a des exils où vous pourrez revenir. Au moment où en Suisse, on m'a donné mon passeport Nansen de personne déplacée et où je suis devenue apatride.
Lui aussi a eu le passeport Nansen.
Je ne suis pas sûre. Ce que je suis sûre, c'est qu'on lui a retiré la nationalité roumaine, mais qu'il ait eu le passeport, je ne suis pas sûre, parce qu'il y avait des amis, c'est une très bonne question, il y avait des amis qui devaient intervenir comme il était apatride pour qu'il obtienne les visas. C'était un grand voyageur. Il voyageait discrètement dans des conditions assez misérables, mais avec une ouverture culturelle énorme. Et je sais qu'après la guerre, il y avait plein de gens qui devaient intervenir puis qu'ils obtiennent ses visas. Parce qu'il n'y avait aucun pays qui pouvait, il voulait pas devenir français. Il avait décidé, en devenant apatride, qu'il voulait plus jamais dépendre d'aucun pays.
Alors, il va pendant son adolescence. Alors, pendant l'adolescence, il est passionné par la lecture et il va faire. Il y a des rencontres passionnantes. Eliane, Sébastien, Tutea.
Mais personne ne sait.
Ionesco,
très vite, oui.
Et ça. Il y a un petit monde là d'intellectuels roumains qui se rencontrent, qui vont se côtoyer. Et Ionesco, il va le retrouver régulièrement à Paris.
Oui, alors c'est très intéressant. Ce que tu décris, c'est une époque bénie qui nous vient très curieusement d'Autriche-Hongrie. Il y a un moment magique qui s'est passé à Vienne et qui est arrivé en Transylvanie où Cioran est né avec une vingtaine d'années de retard. Comme toute tranquille révolution culturelle vraie et de qualité. Donc nous avons la Vienne extraordinaire où tu as tout d'un coup une florescence. Il y a les meilleurs auteurs du monde, il y a Stefan Zweig, il y a en médecine, tu as Freud, il y a un truc extraordinaire, il y a une floraison, il y a le sécession, l'esprit sécession. Tout est bon, dans les arts, dans la musique et tout ça. Ça se passe en Autriche-Hongrie avec un centre de Vienne. Vu qu'au moment où Cioran est né, en 1911, la Roumanie existait, mais il s'agissait juste du royaume et de la Moldavie. Au fond, les premiers papiers de Cioran étaient Empire austro-hongrois. À tel point que lorsqu'il a dû s'inscrire à Bucarest, donc 1911 en 29, quand il a dû s'inscrire à l'université, il a dû faire sortir des nouveaux papiers où il était citoyen roumain. Parce qu'entre-temps, la Deuxième Guerre était finie, l'Autriche-Hongrie avait explosé, et du coup, il s'est trouvé roumain alors que son passeport était Autriche-Hongrie. Dans cette bénie Transylvanie, où il y a un si beau mélange de Schwaben, Saxon, Hongrois, Roumains, de toutes les nationalités, où les gens parlaient plusieurs langues à l'époque de Cioran, la géniale époque d'or viennoise avait pullulé. Et du coup, quand Cioran arrive à Bucarest, c'était quand même la capitale, pour faire ses études universitaires, Bucarest avait tout ce savoir-faire, tout ce savoir-vivre, tout ce savoir intellectuel qui venait de Moldavie, de Transylvanie, d'Hongrie, des restes de l'ancienne Autriche-Hongrie, y compris des gens qui étaient tchèques ou polonais, et qui venaient étudier à Bucarest, qui était le petit Paris. Donc c'était effectivement la chance d'avoir le croisement de l'influence française. Évidemment, les Romains, surtout à l'époque, étaient hyper francophiles et francophones d'ailleurs. Et en même temps, il y avait l'influence de l'Autriche-Hongrie. Donc il y avait, si vous voulez, la fascination de la philosophie allemande sur un grand lecteur, et il était étudiant en philosophie, et la grâce, le charme, la culture du monde français francophone.
Oui, alors il faut aborder une question sensible, tu l'as souligné tout à l'heure, c'est l'antisémitisme de Cioran, et qui n'est pas dû qu'à l'influence du nazisme. Pourquoi les intellectuels roumains, enfin pas tous, mais professent-ils dans une part cette intolérance odieuse et sinistre ?
C'est très étrange parce que dans ce groupe de Paris, Petit Paris, oui. Justement, beaucoup de ceux que tu as cités d'ailleurs et qui sont mes grands préférés, par exemple Mikhaïl Sébastien, donc je recommande à tout le monde la lecture du journal, et des juifs. Mmh. Ionesco, sa mère était juive. Nous savons tous que la judéité se transmet par la mère. Mmh. Donc Ionesco l'était aussi. Il se peut qu'il y ait une composante d'envie, l'envie, le péché capital. Il se peut parce que c'était des gens qui étaient extrêmement brillants intellectuellement. Ça déjà, c'est possible. Presque la moitié des juifs. Il y a aussi des personnages comme Paul Celan, l'immense Paul Celan, qui était également juif. Ils étaient tous très roumains insérés. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux écrivaient en roumain. Et je pense qu'au fond, tant qu'il était à Bucarest, Cioran n'était pas antisémite. Ce qui s'est passé, c'est qu'il trouvait la Roumanie de l'époque et le monde universitaire roumain provincial. Ce en quoi je pense qu'il n'avait pas tort. Il le dit, il n'avait pas tort. Parce qu'on avait un peu ces bourgeoises roumaines, balkaniques un peu, qui voulaient toutes être françaises. Donc quand même, il y a un truc, il fallait être plutôt fier du côté un peu slave, mélangé, avec un peu de balkanique. Non, c'est très beau, hein, c'est des marches de l'Empire, c'est très compliqué. Mais lui, il avait honte un peu sur un, il trouvait ce monde un tout petit peu parvenu, faut bien dire le mot. Ils étaient un peu parvenus, ils se croyaient français, ils se croyaient une mégalopole, alors que c'était quand même une petite capitale un peu éloignée.
Mais là où il va complètement changer,
exactement,
c'est Berlin.
C'est Berlin.
33.
Or, comme il a voulu échapper à ce monde qu'il trouvait provincial, il devait avoir un tout petit peu raison, c'est des parvenus, avec un élément très intéressant qui était précisément l'intellectuel roumain, le juif roumain, il va à Berlin. Et à Berlin, il trouve une folie de masse, et pour une fois, il trouve lui qui était un peu solitaire, un peu insomniaque, que d'ailleurs à Bucarest, on méprisait un peu, parce qu'il venait de Transylvanie. Il était quand même un peu régional, donc provincial. Donc, il avait été méprisé en Transylvanie, parce qu'il était roumain par l'Empire autrichien. Il a été méprisé en Roumanie par l'intellectuel roumain, parce qu'il venait plus ou moins de la campagne, entre guillemets, bien sûr. Il arrive enfin à Berlin, et à Berlin, il se rend compte que tout le monde haïssait une seule catégorie, les Juifs. Donc c'est parfait, pour une fois, il commence à hurler avec la meute des loups. Il est très sincèrement épaté par le charisme d'Hitler.
C'est des propos dithyrambiques à l'égard d'Hitler. Et une barbarie féconde et créatrice, quand même. C'est fort.
Barbarie féconde, créatrice, faut le faire. Mais j'étais ahuri. Bon.
Et comment va-t-il évoluer sur cette question?
Surtout, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est de dire, est-ce que c'était possible? Est-ce qu'à l'époque, c'était possible d'avoir un sens critique? Ça, c'est parce que je faisais ma propre autocritique. Je me disais, tu ne peux pas juger Cioran dans les années 33, à partir d'aujourd'hui, 100 ans, presque 100 ans après. Mmh. Est-ce que c'était possible de résister? Et là, ça a été la plus belle partie de ma recherche, et j'ai vu qu'il y avait des gens, y compris à Berlin, qui résistaient. Il y avait Oswald Spengler qui était professeur d'université. Tout le monde voulait lui faire la cour, le Hitler. Le mec a résisté, il a perdu sa chaire à l'université. Il y avait plein d'autres. Il y avait Roumanie aussi, c'était possible. Ionesco a été tout de suite anti-nazi, anti-garde-fer. Donc c'était possible de résister. Ensuite, deuxième question. Je vous dis, on est toujours l'avocat de son sujet. Je me suis dit, est-ce qu'il savait? Est-ce que Cioran savait? Oui. Il savait, parce qu'il arrive. Il a voulu sa bourse à Berlin. Il l'a eu. C'est d'ailleurs une bourse d'idées par l'Institut culturel français de Bucarest. Oui. C'est les Français qui ont aidé toujours ce merveilleux Alfred Dupron, qui a aidé Cioran, Ionesco et plein d'autres de se tirer de Roumanie et d'échapper une fois aux communistes, une fois aux fascistes. Mmh. C'est vraiment un bienfaiteur général. Après, il a dirigé la Sorbonne. Bravo le mèche, bravo le grand homme. Donc, c'était possible parce que Cioran arrive avec sa bourse en novembre 33. Et j'ai regardé où il habitait. Heureusement, il y a Google Maps. Donc, j'ai vu de son adresse qu'il voyait. Et vous savez ce qu'il voyait? Le Reichstag qui avait été incendié.
Qui avait brûlé.
C'était pile devant ses fenêtres. Donc, il ne pouvait pas ignorer ce qu'étaient les fascistes. Mmh. Effectivement, il dit un truc, vous savez, ça c'est presque un truc hormonal hein, chez lui, cette barbarie créatrice et tout ça. Pourquoi je dis hormonal? Parce que ça tient de l'hystérie. À un moment donné, il voit Hitler. Il voit Hitler à Berlin parler aux masses. Et il y a ce truc incroyable, il dit, j'étais si impressionné que pendant quelques semaines, je n'ai pas pu écrire. Ça, c'est carrément des sentiments amoureux, mmh. idiots. Enfin, on est dans la passion, on n'est plus dans la raison. Mmh. Donc, il a été fasciné par ce fou. Bah, ils étaient quand même quelques millions à être fascinés. Oui. Peut-être et que après, la folie est contagieuse.
Il y a eu un repentir?
Il ne l'a pas fait concrètement, très clairement, en écrit publiquement. Mmh. Pourquoi il ne l'a pas fait? Je le comprends un peu avec l'expérience. Je pense, comme il était en odeur de sainteté chez l'intelligentsia germano-pratine, comme on ne savait pas, il y a 20 ans, on ne savait pas ces textes-là. Moi, je les ai trouvés en les cherchant. Donc, c'était une partie de sa vie qui était cachée. D'abord, elle avait duré peu de temps. Il avait duré 7 ans, disons, cette année. Mmh. Les écrits étaient en roumain. Tout le monde n'y avait pas accès. Mmh. Donc, c'était une partie qu'on ne connaissait pas. Moi-même, quand je l'ai rencontré, je ne connaissais pas ça. Et tant mieux, parce que si j'avais connu, à mon avis, je ne serais pas allé le voir, hein, mmh. en ayant lu. Donc, il n'a pas fait de repentir, parce que se repentir aurait été attirer l'attention. Et personne ne le savait à l'époque, d'accord. qu'il y avait ces choses-là. En revanche, je peux témoigner pour lui, il avait le culte de l'amitié, donc il écrivait encore à des anciens garde-fer, donc des anciens fascisants roumains, mmh. avec lesquels il était resté en contact, et dans cette correspondance privée qu'on a, il parle très souvent de folie qui s'était emparée, il parle à ses amis, cette folie qui s'était emparée de nous, comment on a pu être là-dedans.
Oui, j'ai vu ces textes.
Voilà. Mmh, mmh, donc mmh. ceux qui connaissaient, mmh. il a changé. Mmh. Il dit qu'il a changé. Il n'a pas dit publiquement parce qu'il aurait dû, avouer. D'accord. Ce qui fait qu'il n'a pas avoué, mais ça s'est quand même trouvé tout seul. Il a été un peu épargné parce que ça s'est trouvé tard sur lui. En revanche, les Américains qui sont extrêmement plus sur le politiquement correct, mais parfois ils ont raison, ils avaient trouvé chez Mircea Eliade des choses bien plus terribles. Oui, hein? Bien plus terribles, oui. Et déjà on ne le recevait plus tellement aux États-Unis.
Mm-hmm. Alors, il quitte la Roumanie, il n'y reviendra jamais. Mm-hmm. En quelle année ça, il quitte la
1941,
Roumanie 1941,
définitivement.
Il s'installe à Paris, en plein quartier latin, et il a déjà écrit là-bas en Roumanie, il a écrit son premier livre sur les cimes du désespoir. Est-ce qu'il n'a pas déjà tout donné de sa pensée dans ce livre, Les cimes du désespoir?
Oui, il avait publié 6 livres en Roumanie, mais en roumain, mais vous avez parfaitement raison, parce que sur les cimes du désespoir, c'est un livre qui contient au fond son doute sur l'existence, le combat impossible avec un dieu inexistant, et nous avons quelqu'un qui le connaît mieux que personne, enfin, dans la mesure du possible, c'est lui-même. Et lui, il a dit toujours, avec une modestie et bon, une lucidité extraordinaire, il a toujours dit, j'ai toujours écrit le même livre.
Oui, hein, c'est
et
ça.
Et c'est totalement vrai. Et il a rajouté comme quoi, quand même, on ne se connaît pas toujours bien soi-même. Mais lui, qui était tellement centré sur lui, au fond, il n'écrit que sur lui. Hein. Il écrit tout le temps, il n'a écrit que sa vie intérieure spirituelle. C'est le journal de sa vie spirituelle. Et comme il se connaît très bien, il a dit l'essentiel. Il a dit, je n'ai pas des idées. Et c'est pour ça qu'il a très bien dit, toujours, de refuser le titre de philosophe. Je n'ai pas de système, je n'ai pas d'idées. Donc, la chose la plus intelligente qui a été dite sur lui, c'est lui-même qui l'a dite. Je n'ai pas d'idée, j'ai que des obsessions. Quand vous avez des obsessions, c'est clair que vous avez 2 ou 3 points clés qui vous préoccupent toute votre vie, que vous revisitez aux divers stades de votre évolution. Et c'est ces obsessions dont il traite. Donc tous ces livres, franchement, ils se ressemblent tous. Il y a un changement, c'est le changement de style entre l'époque romaine et l'écriture en français.
Alors,
c'est la seule chose.
Il décide d'écrire en français. Comment peut-on quitter sa langue maternelle et intégrer les nuances d'une autre langue? C'est ce qu'il fit.
Je ne sais pas pour les autres catégories, je peux parler pour la mienne et la sienne. Quand vous êtes écrivain, il y a la langue maternelle qui compte pour tout le monde. Il y a une autre langue qui compte pour vous. Et selon des tempéraments, elle compte davantage ou moins que la langue maternelle. C'est votre langue d'écriture.
D'accord.
C'est ça, votre maison. Et d'ailleurs, lui, il a une très bonne citation. Il dit, une patrie, c'est une langue et rien d'autre. Bon, c'est une belle formule, c'est peut-être un peu plus. Mais nous l'acceptons totalement pour un écrivain. Sa patrie, c'est sa langue d'écriture. Donc ça veut dire, moi je me souviens très bien quand j'avais changé de langue, que je guettais un moment dont beaucoup d'écrivains qui ont changé de langue me prévenaient. Ils me disaient, fais attention la première fois que tu vas rêver dans ta nouvelle langue. Là, tu sauras que le changement s'est fait. C'est très joli, c'est comme un divorce. Vous savez, jamais quand vous êtes totalement dépris de l'amour du premier mariage ou du précédent mariage, eh bien, pour la littérature et pour la langue, c'est le moment où vous vivez. Pourquoi ? Parce que c'est l'inconscient qui se présente.
Oui.
Et là, vous dites, ça y est, j'ai changé de mariage.
Et comment écrivait-il ? Tu évoques le passage par l'article pour aller vers le livre. Tu as un ou deux exemples ?
Oui, il se disait paresseux. Il y avait un tout petit peu de ça, c'est surtout qu'il écrivait au tempérament. Donc c'était plutôt, il n'aurait jamais été un écrivain de roman. Là, il faut faire un système, il faut faire un plan. Il aurait été un excellent écrivain de théâtre ou un écrivain de nouvelles. C'est-à-dire que lui, c'était des bouffées passionnelles de tempérament qui venaient, il y devenait avec. Donc, à la fois, pour soigner sa paresse et s'obliger à écrire, il y avait des gens formidables, comme Jean Paulhan, qui l'encourageaient pour écrire. Et dans ce cas-là, ce qu'il faisait, c'est qu'il leur donnait un article. Et ces gens-là lui sollicitaient des articles en sachant qu'il l'aidait. Et par exemple, le mauvais des Mioches, pour prendre un exemple, son père était pop, il a eu toute sa vie, il a voulu croire, mais il n'arrivait pas à croire, alors qu'il était élevé dans la religion. Il a toujours eu un problème par rapport à Dieu et le fait de ne pas arriver à croire, tout en, finalement, il aurait voulu croire encore plus pour pouvoir mieux se bagarrer avec Dieu. Finalement, c'était son ami préféré et son ennemi préféré. Donc, le mauvais démiurge, en faisant cet article, au lieu, si Dieu existait vraiment, il est tel qu'on nous le projette, pourquoi il a inventé la souffrance, question éternelle. Et là, il dit, parce que peut-être c'était pas Dieu. Et sa place était prise par un mauvais démiurge. Donc, au fond, c'est la même histoire avec l'ange déchu.
Oui.
L'ange déchu était préféré, mais finalement, par ego et par orgueil, il a fait des bêtises. Donc, du coup, il est devenu Satan. Donc, il est venu, si vous voulez, l'opposition de Dieu. Donc, inventant dans son article ce mauvais démiurge qui a été publié, après, il creuse l'idée, et puis, ça devient... Ses livres sont toujours très courts. Il lui est arrivé, à un moment donné, à donner un entretien à un journaliste américain, et au moment où l'article allait paraître dans le New York Times, je crois, on lui demande, pour la présentation dans une librairie, des livres. Et désespéré, la libraire américaine dit... Mais tous ces livres sont des brochures, parce qu'au fond, il n'y a pas un seul livre qui dépasse 100 pages. Ouais. Donc, comme il a écrit que 10 livres, je prends la série française, tout ce qui est publié et républié, y compris les traductions de romans, ils font environ 100. Et ce qui est amusant, c'est que pour une œuvre de 1000 pages, la critique, effectivement, vous avez raison, c'est la seule biographie à ma connaissance en français. Et bien, les commentaires, je ne dis pas biographie. Donc, il génère plus de critiques que d'œuvres. C'est une œuvre qui multiplie les critiques.
Et quel est le style de Suran ?
C'est un style à l'économie, je ne voudrais pas dire... Son style roumain était très Sturm und Drang, très romantique. Il y avait plein d'épithètes, d'adjectifs, ça n'en finissait pas. Parfois, ils étaient même pléthores. Mais c'était un style poétique, ça se comprend. La redondance en poésie, si elle est bien menée, peut donner un rythme, c'est très beau. Peut-être par méfiance... de son style français, le style est extrêmement réduit. Il y a d'abord le génie du français, qui est un génie cartésien, qui nous oblige à faire plus court, à avoir l'idée. Il y a un agencement des mots qui est une académie en France, ce qui n'est vraiment pas pour le roman ou pour d'autres langues. Donc, quelque part, c'est balisé. Donc, en devant, dans cette nouvelle langue, respecter les balises, avec un orgueil incroyable, luciférien, il voulait toujours écrire mieux que les Français. D'abord, la plupart des Français n'écrivent pas bien, excusez-moi, même si dans chaque Français se cache un écrivain. Mais lui, dans sa folie grandiose, et il a fait aussi un cadeau aux Français, du coup, il voulait à tout prix être meilleur que les meilleurs Français. Il cherchait le Français le plus compliqué, celui du 17e. Et en voulant si bien faire, mais se méfiant, c'est l'acquisition tardive du Français. Vous savez, il a commencé à écrire en français à 38 ans, C'est un courage exceptionnel.
Oui,
on n'est plus une éponge, donc bravo l'artiste. Donc, en faisant ça, il a dû se limiter. Il a épuré, génie cartésien du français, mais lui aussi, il a épuré parce qu'il ne pouvait pas se permettre les mêmes envolées. Il n'y avait pas... Moi, j'ai parlé avec lui en français. Il parlait bien, il parlait vite. Mais il n'y avait pas une spontanéité délirante comme on voit dans ces textes roumains. Donc, je pense qu'il se surveillait un peu. Il avait compris le génie de la langue, qui était un génie bien ordonné. Il a respecté les règles et du coup, le texte est beaucoup moins sensuel, pas du tout asséché, mais il est moins sensuel. Les idées, il utilisait avant des métaphores. Donc, quand il parlait dans ses œuvres romaines, tout était sanguignolant, repulpant, turgescent. C'est les mots qui apparaissent. Tous ces mots disparaissent complètement dans son écriture française. Mmh. Il n'y a pas, vous sentez pas, vous voyez pas un organe, une fleur vivante derrière un mot. Vous voyez chaque fois derrière un mot une idée, un concept, mais très rarement un objet ou quelque chose de corporel. C'est très très net.
Et on le voit dans les rues autour du théâtre de l'Odéon. Est-ce qu'on peut le considérer comme un misanthrope en habitant près de l'Odéon, comme ça, c'était quoi, une soupente, non?
C'était quand même un trois pièces, hein. C'était un trois pièces, mais c'est vrai qu'il était légèrement mansardé, ce qui, franchement, c'est un des charmes de Paris, hein.
Oui, donc c'est.
Presque dans la même rue, j'ai habité en foyer pour les étudiants franco-allemands, et le dernier étage était mansardé, pour des règles.
Alors, c'est un misanthrope, il ne voit pas beaucoup de monde. Non, c'est pas vrai, ça.
Il vivait en couple. Ouais. Il a vécu 40 ans en couple.
Non. Alors, j'ai l'impression quand même qu'elle était très courageuse, cette dame.
Il était formidable. En plus, il était joli. Il était bien élevé. C'était une Vendéenne. Et il était agrégé d'anglais. Et elle a été d'un dévouement absolu. La plus belle des choses. Bon, tant que les gens sont vivants, on les adore. On fait tout ce qu'on peut pour eux, pour un sourire, pour un câlin. Mais elle, 2 années après sa mort, elle s'est employée à taper tous ses textes manuscrit, elle a toujours tapé ses textes, donc elle connaissait son écriture. Pendant 2 ans, il a tapé tous ses textes manuscrits, ce qui nous a donné les cahiers, les 1000 pages des cahiers. Et quand elle a fini ce travail, elle est allée en Vendée, elle a nagé, elle s'est noyée.
Oui, je crois qu'on l'a retrouvée sur une plage.
Exactement. Juste après avoir livré chez Gallimard, les 1000 pages. Il n'a pas attendu les trompettes de la renommée. Il n'a pas attendu que le livre sorte. Elle a fait le travail. Après la mort, elle lui a rendu service et justice. Après l'avoir soutenu, ne fût-ce que par gagner l'argent du ménage. Toute sa vie, c'est elle qui l'a fait.
Oui.
Et l'encourager et taper ses textes à l'écriture. Cependant, lui avait quelque chose. Il avait un orgueil extraordinaire, un orgueil luciférien. Il se qu'il avait un côté un peu patriarcal, un peu macho, macho balkanique, vous savez, c'est culturel, ça, on ne peut pas le juger aujourd'hui. Donc je crois qu'il a voulu aussi se donner une image d'ermite pour ne pas compliquer les choses. Peut-être qu'il avait aussi un peu raison. Les gens, les journalistes seraient peut-être un peu trop intéressés à sa compagne, à Simone Boué, à tout ça. Lui, il voulait être considéré que pour son écriture en français. Il était assez modeste, il ne disait pas sa pensée, il disait son écriture. C'est, au fond, il a fait une autobiographie constante en parlant de ses états d'âme. Et c'est pas si mauvais. Il y a des bonnes formules. Donc je pense que le fait qu'il se soit donné une image d'ermite, c'était aussi pour résister, à l'époque, d'un journalisme qui glissait trop facilement vers un journalisme un peu trop populaire. Je dirais pas pépé, mais presque. Il ne voulait pas être amalgamé. D'ailleurs, il voulait pas d'amalgame, ni avec la Roumanie, ni avec sa vie privée. Il voulait être considéré comme un personnage en soi.
Comme Suran.
Exactement.
Je crois d'ailleurs qu'on ne donnait jamais son prénom. Tout le monde l'appelait Suran.
Vous avez parfaitement raison. Dans ses premiers livres, c'était Suran. Et c'est très intéressant. Quand les gens sont célèbres, qu'ils ont une personnalité puissante, je peux vous dire que les femmes de Jean Anouilh parlaient de lui, et même les enfants en disant « Anouilh ». Anouilh nous a amenés en vacances. Et elle disait Suran, tout le monde disait Suran. Et au départ, quand on était moins connus, on avait E.M. Suran, sur les livres, sur les premiers livres. Il détestait le E. C'était Émile. Il disait que Émile, c'était un prénom de garçon coiffeur. La lettre, c'est simplement, comme il ne trouvait pas d'éditeur à une époque, il avait vu E. de Forster. Et ça lui avait plu, cette initiale qui semblait à rien. Il l'avait mise, et petit à petit, quand il a eu du succès, quand il a été apprécié réellement, au fond, les deux initiales ont disparu. Et puis c'est resté Suran, comme un nom de marque.
Oui.
Et puis on a la chance que ce, on en parlait tout à l'heure, que ce surant veut aussi dire en romain, c'est une allitération très légère du corbeau, et qu'en russe, ça veut dire tchori, noir. Donc, je trouve très bien d'être représenté par un nom, comme un nom de marque, mais qu'en même temps, signifie dans une langue européenne noir. Et ses livres sont noirs. Sont il les voulait noirs. C'était sa marque de fabrique.
Et alors, certains de mes amis considèrent que c'est difficile de lire Cioran. Alors, on peut peut-être commencer par ton livre pour mieux comprendre le personnage et le. Et parce que tu expliques les livres, le contenu, comment il a travaillé, etc. Ce qu'on vient d'évoquer. Mais est-ce que tu peux mentionner deux ou trois livres de lui et par lesquels on pourrait commencer?
Je pense, en tout cas,
les
meilleures critiques.
Pas les 1000 pages.
Oui, c'est pas les 1000 pages. Et les 1000 pages, c'est au fond la biographie, donc c'est pas la peine. Mais c'est, et en plus, il ne destinait pas à l'écriture. C'est Simone Bouet, dans sa vénération, qui a décidé de ne pas nous priver de ce document. Et en tout cas, la biographe que je suis le remercie, parce que c'est un livre de travail. C'est pas la peine d'envoyer les gens là. Surant, la biographe pharmacienne donne un seul conseil: dose homéopathique. Si vous lisez trop, c'est d'abord très condensé. Si vous en lisez trop, vous vous apercevez des défauts, qu'il y a un manque de système. En revanche, si vous prenez à dose homéopathique, là, on peut vraiment goûter le propos qui est très resserré. Il faut lire 3 ou 4 lignes et après rêver dessus. Pensez à vos expériences, à vos souvenirs et tout ça, et les mettre en valeur de cet extrait ramassé qui vous aide. À la limite, moi, j'utiliserais ça comme thème de méditation. Vous prenez un aphorisme de Cioran et vous le prenez en thème de méditation.
On commence par celui qu'on a évoqué, sur les cimes du désespoir, non?
C'est une bonne idée, mais en plus, ça pourrait être syllogisme de l'amertume. Parce que là, il n'y a que des aphorismes. Les aphorismes, c'est court. C'est pas des syllogismes, il a fait ça parce qu'il adorait les morts au Ronan. Un syllogisme, non, c'est tous les êtres humains sont mortels, Socrate est mortel, donc c'est pas du tout un syllogisme, c'est un aphorisme. Donc, syllogisme de l'amertume, moi je le recommande parce que c'est surtout des aphorismes. Mais on peut prendre sur les cimes du désespoir et prendre 2 lignes. Vous savez, c'est très, c'est tellement ramassé que c'est pas la peine, ce n'est pas un roman. Ce font comme des recueils de proverbes intelligents. Donc, un proverbe, ou les pages roses du Larousse, pour ceux qui s'en souviennent. Ça ne se lit pas comme ça parce que c'est trop intense, vous en perdez le sens. Ça se lit par petits bouts. C'est au fond, ouvrir le livre, prendre 2 mots, réfléchir.
Un peu comme les pensées de Marc Aurèle.
Eh bien, tout à fait ça. Tout à fait ça, c'est l'exemple extraordinaire. Et d'ailleurs, il aimait beaucoup. Dans ses jeunes années, il était fou des sceptiques. Et puis, au fond, il voulait être un sceptique. Mais il avait trop de tempérament pour ça. Marc Aurèle aurait été pour lui l'exemple extraordinaire, parce que Marc Aurèle savait, et dans la vie et dans l'écriture, trouver le chemin le plus direct. Je pense que Cioran aurait rêvé d'être comme ça. Simplement, son tempérament était un peu trop volcanique.
Eh bien, merci Anne-Cat Visdéhi pour cet échange autour de ton livre, Cioran ou le gai désespoir, publié aux éditions de l'Archipel. Des projets, l'écriture?
Oui, alors j'ai le plaisir de savoir déjà, et je pense que tu es le premier journaliste qui le saura, j'ai trouvé, je corrige les épreuves, j'ai trouvé le titre aujourd'hui même, une biographie de Orson Welles, un personnage qui m'a toujours fasciné, encore un titan, mais un titan plein d'humour, et au fond le livre va s'appeler Orson Welles ou Le génie pressé. Et on a trouvé le sous-titre, parce que mes livres ont toujours un sous-titre, dans la même optique que tu dis, d'ouvrir grand l'éventail pour avoir les 2 extrêmes et les apparents contraires pour réunir la personnalité du bonhomme. Donc, Le génie pressé Orson Welles va sortir sous les presses de l'Archipel en octobre 2025, donc bientôt, à la rentrée. Et je serai très, très heureuse de rajouter le personnage d'Orson Welles, qui était un ego ironiste, à côté de Cioran, qui était mélancolique, ironique.
D'accord. Très bien, merci. Allez. Thank you.
Entrons dans le troisième temps de l'émission que nous appelons parfois Varia. Deux moments d'histoire. On va privilégier deux livres. Et dans la lignée du livre présenté par Marie, je vous propose Forger le faux de Paul Bertrand. Des rumeurs, des fausses nouvelles, il y en eut dans toute l'histoire humaine, mais la question de leur diffusion par l'écrit est passionnante. Et Paul Bertrand nous guide dans un temps étonnant, si riche de récits, de vies tourmentées, de construction de notre société, le Moyen-Âge. Et ce, par un livre au titre complexe, « Forger le faux », publié au Seuil. Il nous en donnera la signification. Et pour notre émission centrée sur le livre, l'écrit, voilà qui devait retenir notre attention. Les sociétés médiévales d'Europe de l'Ouest ont connu une révolution majeure de l'écrit entre le XIIe et le XIIIe siècle. On pourrait même l'étendre depuis le monde carolingien jusqu'au XIVe siècle. Entre 1250 et 1350, les sociétés s'emparent de l'écrit avec ampleur et conviction. Une période d'accélération touchant tous les écrits ordinaires. Je cite Paul Bertrand, « L'écriture s'y manifeste complexe, puissante, totale. » Et Paul Bernard, toujours, cite Marc Bloch. « Jamais, je cite, là aussi, je cite, « jamais en un mot, un phénomène ne s'explique pleinement en dehors de l'étude de son moment. » C'est pourquoi l'auteur nous livre cette évolution. Ce n'est qu'après le XIIe siècle que l'écrit prendra corps juridique. Auparavant, il véhicule l'information, mais n'est pas cru pour lui-même. Ainsi, un témoignage oral peut remettre en cause le contenu d'un écrit. Il est encore loin le temps de cette formule classique en droit, la plume est serve, mais la parole est libre. Les gens du Moyen-Âge écrivaient, réécrivaient les textes pour les moderniser, les mettre en adéquation avec leurs propres idées. Un texte comporte des erreurs ? De quelle nature est cette erreur ? Une faute de clair ? Une confusion d'interprétation au moment de l'écrit ou celui de sa lecture, voyez comme l'approche est nuancée. Et on pourrait établir des extensions avec la vie actuelle, la place des fake news, des faux grossiers ou habiles. Songeons même sur des questions historiques, songeons aux faux cahiers d'Hitler. Bon, la première partie de l'ouvrage porte sur le faux dans les récits hagiographiques, diplomatiques, théologiques, avant le Xe siècle. C'est un temps de construction du discours médiéval où l'imagination, l'invention trouvent leur place. La deuxième partie va porter sur la transformation, le passage d'un monde à un autre. La falsification est vue comme un art de la reprise d'un texte. Étonnant, non ? La troisième partie marque la fin de l'innocence et le temps de l'enfer pour les faussaires. La haine du faux, comme l'écrit Paul Bertrand, repris par les humanistes du XVe siècle qui vouaient aux gémonies ce temps passé. Vous trouverez dans ce parcours des disputes de religieux jusqu'au premier texte, ça remonte jusqu'au premier texte chrétien. Et certes, ce livre exige un tant soit peu de culture chrétienne pour apprécier les luttes avec la papauté, les évêques aux noms étonnants, Hicmar de Reims opposé à Hicmar de Laon, les accusations d'hérésie, l'écrit est un outil, une arme au service d'une foi ou d'intérêts bien matériels. Mais la chair est faible, mon fils, et nous entrons dans un autre monde comme un roman au royaume de la théologie et vous goûterez le débat sur les fausses décrétales pseudo-isidoriennes ou les forgeries pseudo-isidoriennes, puis les faux duments, ceux de Robert d'Artois. Vous savez, Robert d'Artois, des rois maudits de Maurice Druon, c'est presque des titres de romans, c'est étonnant. Et les écrits prennent un coup de sérieux avec les signes sur l'acte. Le sceau, la souscription, la firmatio, c'est du latin. Paul Bertrand analyse le travail quant à la réalisation du faux et vous apprécierez la confection des lettres, les lettres de croisade, Ah oui, ça c'est étonnant. Ou celle encore relative au prêtre Jean jusqu'en Éthiopie. Et puis, eh oui, les lettres du diable. On les compte, on y croyait. Incroyable. Et le débat sur les reliques. Ah, épique, là, il faut vraiment être passionné par l'écrit, l'histoire et la religion, et les romans, pour déguster cet ouvrage de grande érudition et d'une adaptation parfaite au lecteur qui souhaiterait découvrir un monde étonnant. Oui, je le vous recommande ce livre, Paul Bertrand, Forger le faux, les usages de l'écrit au Moyen-Âge, aux éditions du Seuil, en 2025. Fred, est-ce qu'on a le temps de passer la bourrée des cerfs ? Oui, on peut, hein. Allez, musique médiévale. Voilà, et pour trancher avec cette approche historique du Moyen-Âge, mais toujours en lien avec la rafle du Veldiv, je voudrais au moins évoquer le livre de Cécile Vessier, « Dénazifier le cas de la Gestapo toulousaine ». C'est une passionnante leçon de micro-histoire. L'occupation de la France pendant la Seconde Guerre mondiale a entraîné son lot de souffrances, de tortures, de déportations. Et on aurait pu penser qu'à l'issue du conflit, les individus auraient compris l'horreur de l'idéologie nazie et que les vainqueurs auraient mené avec acharnement la lutte contre les responsables des crimes. Certes, le procès de Nuremberg a permis de juger une partie des principaux chefs nazis, mais pour le reste. Quel fut le sort des SS se réfugiant dans une clandestinité plus ou moins opaque ? Les alliés n'ont pas tous la même approche, sans oublier que des recrutements d'anciens nazis, tant à l'ouest qu'à l'est, s'opèrent. Et là, je renvoie à un livre que nous avions commenté il y a quelque temps, en 2023, d'Annie Orbach, « Fugitif, histoire des mercenaires nazis pendant la guerre froide », aux éditions du Nouveau Monde, maison d'édition que nous aimons bien, et même si ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé d'eux. La dénazification fut quelque peu tortueuse en République fédérale allemande, mais aussi en République démocratique allemande. Nombreux furent les criminels qui échappèrent à la justice avec la complicité de cette même justice. Et Cécile Vessier engage une étude de ce processus suivant la méthode de la micro-histoire. En effet, plutôt que de dresser un grand portrait de la dénazification, elle présente le cas de la Gestapo toulousaine, le KDS Toulouse, pour Alors, c'est une abréviation. Hein. Je vous demande de ne pas vouloir me demander de le prononcer en allemand. Pour présenter les suites engagées jusque dans les années 80, elle élargit son analyse aux complexes structures policières des occupants, aux arcanes des juridictions françaises et allemandes. Une leçon d'histoire qui s'appuie sur le passé pour mieux comprendre l'actualité et l'avenir. La France est en partie occupée. Mais avant même son invasion complète, des espions allemands, des collaborateurs français préparent le terrain en zone non occupée. Vous savez, la zone nono. Bon. À leur installation, en novembre 1942, les Allemands rentrent dans cette zone nono, la répression est terrible. Les interrogatoires sauvages, les tortionnaires appliquent les mêmes méthodes qu'en Russie. Pensons à Tulle. Oradour, victime de la division Das Reich. Un mot sur les collaborateurs dont les mots sont occultés. Bon, on peut peut-être le regretter dans l'ouvrage, mais enfin bon, c'est peut-être dans l'intérêt des familles. Pourtant, l'un d'entre eux est révélé, c'est l'avocat général Lespinasse, qui s'adresse au résistant Marcel Langer. Je cite, « Vous êtes juif, polonais et communiste. Trois raisons pour moi de réclamer votre tête. » Langer sera assassiné et Lespinasse sera tué quelque temps plus tard. Qui sont ces SS? Des individus aux origines modestes, mais aussi des diplômés en droit. Ah, ils se font aider par des supplétifs français, dont la sinistre bande de la rue Lauriston. On en avait parlé de la bande de la rue Lauriston aussi. Le débarquement se déroule en juin. Et voilà qui inquiète tous les occupants. Ils commencent à évacuer. Ils tuent les prisonniers. Ils brûlent les documents compromettants et s'enfuient en hâte. Toulouse est libérée le 20 août. Et en mai 1945, l'Allemagne est un chaos. Aussi, les nazis n'ont guère de difficultés pour se cacher, changer leur identité, se fondre dans la masse. Selon les historiens, entre 80 000 et 100 000 personnes y vivent sous de fausses identités. Ce sont les Alliés qui engagent le processus de dénazification sur ces territoires. Mais n'oublions pas que le parti nazi, NSDAP, comptait 8,5 millions d'adhérents en 1945. Difficile de ne pas rencontrer, notamment dans les petites villes, certains d'entre eux, et une forme d'omerta s'installe. Les autorités allemandes mettent au point une stratégie de défense de leurs ressortissants, organisent les rapatriements, les grâces, et très rapidement, d'anciens responsables nazis occupent des postes dans, incroyable mais vrai, la police, l'armée, la justice. Ainsi, un certain Müller, de la Gestapo de Toulouse, réintègre la police de Lunebourg en tant que commissaire dès 1948. Le système de défense est simple, il suffit de nier avec force, d'avancer des excuses bidons, de louvoyer dans ses explications, de trouver des témoignages auprès d'anciens soldats, c'est ce qu'on appelle les certificats Persil, Persil qu'il avait plus blanc que blanc lui aussi, d'une marque de lessive, hein, Persil. Et les nazis sont convaincus d'avoir bien agi. Ils sont obéis aux ordres. Rares sont ceux qui regrettent leurs crimes. La RFA défend les droits des Allemands emprisonnés. L'Église évangélique apporte son aide sans s'interroger sur le comportement des individus. Il n'y a pas qu'elle, d'ailleurs. Et jusqu'en 1955, on peut considérer que la justice allemande engage des procédures accouchant d'une souris. Vous lirez ces pages très argumentées et référencées. Vous poursuivrez les parcours de ces individus. Les dates clés traduisent une évolution dans une partie de la société allemande. 1961, le procès Eichmann. Difficile de dire que les accusations étaient fausses. 1971, une jeunesse allemande ne veut pas être complice des comportements de leurs parents. Mais le plus souvent, le silence perdure. Et puis, la vie entraîne la mort, à savoir, nombre de nazis meurent de leur belle mort dans leur lit. Eux ne sont pas morts dans les camps, sous la torture, ou d'une balle dans la nuque au bord d'une fosse commune. Le mur entre ces nazis et les partis politiques, dont la CDU, est plus que poreux. Et vous retrouverez dans le livre les noms de certains cadres de ces organisations. Bon, n'oublions pas qu'en France, nous avons eu aussi notre lot. Mais peut-on parler, puisque nous parlons de la dénazification, peut-on parler d'une lente et illusoire dénazification ? Fallait-il tourner la page ? Est-ce la limite de l'état de droit dont les criminels nazis ont si bien profité ? Nous savons aussi que cette idéologie odieuse n'a pas disparu. Et quant à ces criminels, je cite Cécile Vessier, ils n'ont pas cessé de mentir pour ne pas assumer leurs actes. Je rappelle, Cécile Vessier, dénazifiée, le cas de la Gestapo toulousaine, aux éditions Loubatière en 2025. Eh bien voilà, mes chers amis, des livres. On a essayé, là, une fois de plus, d'être assez diverses. C'est fini pour aujourd'hui dans Au fil des pages. Encore merci pour votre écoute et votre fidélité. On se retrouve le mercredi 23 juillet 2025 pour écouter l'émission initialement prévue le 25 juin et nous recevrons Gérard Da Silva pour la seconde partie de l'entretien qu'il nous a consacré qui porte sur les luttes sociales. D'ici là, eh bien, bonne lecture et l'équipe d'Au fil des pages sur Radio Libertaire vous souhaite ni Dieu ni Maître. Un bel idéal de vie, et nous laissons la place dans quelques minutes à nos amis de Femmes Libres. À bientôt et au plaisir de partager.
c'est toute sa vie qui était dans sa machine. Il va réveiller maman, peut-être.
Il va réveiller maman,
lui dire
peut-être.
Toujours pas de lettres.
Lui dire toujours pas de lettres.
Il reviendra.
Il reviendra.
Il pense à nous,
t'en fais pas. Dans la guérilla,
dans la
là-bas,
guérilla,
au Nicaragua.
Au Nicaragua. Mère aux hommes et mère d'adieu, il dit en raccrochant son bleu. Mon enfant a compris mieux que moi.
Femmes libres.
Femmes qui se libèrent.
Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, libérons-nous. Levant nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous. 20, alors je ne sais plus d'ailleurs, ça doit être la 25e émission de cette année 2025. Émission féministe et anarchiste pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes libres. Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4. Et c'est Sylvie aux manettes. L'émission, c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. Pour nous suivre, on a un blog, alors c'est émission-femmeslibres.blogspot.com. Et n'hésitez pas à aller donc sur notre blog pour réécouter les émissions et avoir le programme. Pensez aussi à nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. Le programme de ce soir, féminicide par compagnon ou ex. Ensuite, la rubrique Accord et à cri avec Agnès. Et ensuite, ce sera 2 podcasts, La vie en rouge. Ce sont des podcasts qui ont été conçus et réalisés par des femmes ayant connu la prostitution. Et nous terminerons par des informations, des communiqués et des rendez-vous. Nous démarrons par féminicide par compagnon ou ex.
Encore un drame de la séparation. À Metz, un gendarme a tué sa femme avant de se suicider.
Une mère de famille battue à mort à Montpellier. Selon les voisins, elle était prisonnière
de Tunisie. Une marche est organisée pour une adolescente de 13 ans brûlée vive par son
père. Le jeune homme avait tué sa petite amie par jalousie.
Une nouvelle série de viols et de meurtres sordides de femmes en Inde et au
Pakistan. Du nouveau dans l'affaire Pistorius, le champion a été reconnu coupable d'homicide involontaire.
Une femme enceinte et ses 2 enfants ont été retrouvés égorgés dans le Val-de-Marne.
Drame familial à Groix. Un homme mis en accusation pour l'assassinat de...
Le corps d'une Allemande vient d'être découvert dans le bar.
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces crimes machistes.
reconnaissant le féminicide.
Chaque semaine, nous faisons état de la recension dans les médias, sur Internet, des féminicides par compagnon ou ex-compagnon en France, chiffre à minima. De nombreuses affaires non comptabilisées sont en surveillance et subissent l'omerta des parquets. Non, ce ne sont pas des drames familiaux, ni des drames de la séparation, ni des crimes passionnels. Ce sont des féminicides conjugaux perpétrés par des hommes frustrés qui pensent détenir